On va pas ouvrir le débat. J'habite quoi? Avec un X. Et en général, quand on me présente, le pasteur dit, une fois, on a dit deux fois. Le pasteur, je disais ma foi, c'est bien la première fois que je prêche ma foi. Mais notre frère Alain Arrêt n'est pas entré dans l'automatisme. Et je l'en remercie. Donc, je fais partie de la tribu des Fuxéens. Il y a quatre tribus en arrière, les Miraficiens, les Labriciens, les Fuxéens, les Apaméens. Hein. Quatre tribus qui vivent des sauvages, de la chasse et de la pêche. Alors, ce sont les habitants donc, de Foix, de Pamiers, de Lavelanet et de Mirepoix. Et je suis chargé de vous transmettre, hein, par nos frères et sœurs de ces villes, de vous transmettre leurs salutations fraternelles. Nous ouvrons ensemble donc la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Nous croyons en effet que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle est inspirée au mot près d'ailleurs. Alors pas nos versions, nos versions sont des traductions, mais le texte original est un texte qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu et Paul dit que toute écriture, tout graphe, a été inspiré de Dieu. Donc Luc 11, verset 33. Évangile selon Luc, verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Voilà, nous allons nous attarder un peu sur cette parabole du Seigneur. La lampe, c'est notre œil. C'est la lampe, c'est l'œil, donc, est la lampe de notre corps et il éclaire notre corps. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de vous promener la nuit. Il n'y a pas la lune, même un peu couvert. Tout est sombre. Et là, on s'aperçoit qu'on a un peu de mal à marcher, tranquillement et avec assurance. Le moindre obstacle, et c'est le déséquilibre. Si le terrain monte, si le terrain descend, ça nous déséquilibre aussi. Le cerveau doit intégrer un tas de données. Alors que c'est beaucoup plus vite fait, cette intégration des données, quand il y a la lumière. J'aimerais vous parler des yeux de notre cœur, j'allais dire. C'est une expression que l'apôtre Paul emploie, bien sûr c'est au sens figuré, nous n'avons pas deux yeux ici, là. Et il parle de la révélation et de la lumière de Dieu qui doit habiter notre cœur. La connaissance que nous devons avoir de Dieu, de sa personne, de son plan, de sa volonté, et cela dans notre cœur. Je note, en lisant la Bible, que le premier acte créateur de Dieu, c'est la lumière. Tout le monde connaît par cœur le verset. Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut ». On ne sait pas combien de temps ça a pris, on ne sait pas comment ça s'est passé, peu importe. Mais c'est le premier acte créateur de Dieu. Et c'est tout au début de la Bible, au départ donc de la révélation. Et on sait, comme dit le psalmiste, que sans la lumière de Dieu, eh bien, on ne voit rien du tout. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et c'est un réformateur qui dit, sans Dieu, on ne peut pas connaître Dieu. Si Dieu n'éclaire pas nos cœurs, Si Dieu n'éclaire pas notre intelligence, alors il est très difficile de connaître Dieu. D'ailleurs, il existe bon nombre de religions dans le monde qui ont essayé de concevoir Dieu, d'imaginer Dieu, mais les produits de cette imagination sont très très loin du Dieu qui se révèle à nous dans la Bible. Jésus un jour a guéri un aveugle d'une manière assez surprenante, et c'est quand même instructif. Il a trouvé un aveugle né, oui, aveugle de naissance, et il a fait de la boue avec sa salive qu'il a appliquée sur les yeux de l'aveugle. Alors ça ne veut pas dire que la poussière de la terre de Palestine a des vertus ophtalmiques ou ophtalmologiques. Non, non. Mais Jésus est en train de faire un mime. Donc il plaque de la boue sur les yeux de cet homme et il lui dit d'aller se laver le visage à un endroit très précis, le réservoir de Siloé. Si Jean ne nous donne pas le détail, on passe à côté de quelque chose. Mais Jean a le souci de préciser que le mot Siloé signifie envoyé. Cet homme, donc, aveugle, avec de la boue sur les yeux, on imagine le mime, va se laver le visage au réservoir de l'envoyé. Et à partir du moment où la boue disparaît, le visage est lavé, les yeux s'éclaircissent, mais en même temps ils recouvrent la vue, là, au réservoir de l'envoyé. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour se révéler au travers de lui. Le Fils est venu de la part du Père pour nous faire connaître le Père, écrit Jean. Et chaque fois que quelqu'un se tourne vers Jésus-Christ, lui ouvre son cœur, se réconcilie avec Dieu, la première chose qu'il découvre, c'est qu'il commence à comprendre Dieu. Il commence seulement, parce que jamais nous ne comprendrons Dieu dans l'infinie grandeur de sa science. Mais des choses s'éclairent. Mes parents étaient protestants, réformés, pratiquants, et tous les jours, il lisait la Bible, tous les jours. Et un jour, bon, ils sont venus à l'église évangélique de Royan et ils se sont convertis. Alors ça fait faire bizarre qu'on dise que des protestants pratiquants se convertissent à Jésus-Christ. Mais c'est la réalité des choses. Et ils ont continué leur pratique de lecture quotidienne de la Bible. Et ils disaient, je les ai entendus souvent dire ceci, ah ben c'est drôle quand même, c'est curieux. Ces textes, on les avait lus et relus. Et on ne les avait jamais compris comme on les comprend aujourd'hui. Oui, quand un cœur s'ouvre au Seigneur, quand le Seigneur nous lave et nous purifie de nos péchés, voilà que tout à coup, et ça fait partie du miracle de la nouvelle naissance, les yeux de nos cœurs s'ouvrent et l'Esprit de Dieu nous éclaire et nous aide à comprendre ce que nous n'aurions jamais compris seulement par les performances de nos synapses et de nos neurones. Ça va être compliqué peut-être à traduire. Dieu éclaire notre intelligence et nous permet de comprendre. Et là, dans le texte que nous avons lu, Jésus attire l'attention sur la nécessité d'une vision spirituelle claire. Ça, c'est absolument nécessaire. Quand Dieu se révèle à Abraham, il ne commence pas la conversation par un grand cours de théologie en disant « Tu es complètement dans l'erreur, mon brave. Adorer la lune, les étoiles et le soleil, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. On t'a mal éduqué, t'as mal compris les choses, etc. » Non, non. Dieu appelle Abraham et lui dit oh, « Je vais te montrer un pays. Tu vas quitter celui-là, Ur, en Chaldée, et je vais t'emmener dans un pays que je donnerai à toi et à ta postérité. » Et plus tard, C'était la soirée. Dieu dit à Abraham, sors de la tente, va voir un peu la voûte céleste. J'en parlais vendredi soir. Essaie de compter les étoiles, si tu peux. J'aime bien le « si tu peux ». Et Dieu dit, eh bien, telle sera ta postérité. Dieu a donné des visions de son dessein, de son plan à Abraham. Et ces visions que Dieu a plantées dans le cœur d'Abraham, ont été certainement au quotidien une motivation permanente pour cheminer avec le Seigneur. Joseph, à 17 ans, a eu la vision de ce que Dieu allait faire pour lui. Dieu ne lui a pas tout expliqué. Il ne lui a pas dit ce qui allait se passer entre le jour où il a eu où la nuit où il a eu les songes et le jour où cela allait se réaliser. C'est écoulé un bon nombre d'années, et des années parfois très difficiles. Mais ce que Dieu lui avait dit, il l'a réalisé. Et donc à 17 ans, il lui a dit, voilà ce qui va arriver. Bon, il a fait l'erreur de raconter à ses frères les songes. Il a peut-être mis une certaine intonation de telle sorte que les frères n'ont pas aimé du tout. La vision que Dieu nous donne, ou la révélation qu'il nous accorde, tant du salut, mais aussi de tout le plan qu'il a pour notre vie, suppose la foi. Implique même la foi. Car quand Dieu nous parle et nous révèle les choses, c'est par la foi que nous nous accrochons à ces choses et c'est par la foi que nous nous approprions ces choses. Il est dit d'Abraham qu'il a écouté ce que Dieu lui a dit, puis il a vu toutes ces étoiles et il y a cru. Pourtant, il y avait de grands handicaps devant lui. J'ai expliqué l'autre soir qu'il n'a pas vu grand-chose de la postérité. Mais il a fait confiance à Dieu. La foi agit comme une sorte de télescope qui vous permet de voir très très loin devant le dessein de Dieu. C'est comme ça que Moïse a fait un choix inspiré par la foi qu'il avait dans le dessein de Dieu. Et il nous est dit qu'il s'est montré ferme devant Pharaon et qu'il a même accepté d'être maltraité avec le peuple d'Israël. Pourtant, il avait l'avenir devant lui, il avait une voie royale devant lui, adopté par la fille de Pharaon, donc il était dans les hautes sphères de l'Égypte. Il avait certainement bénéficié des meilleures écoles, certainement des meilleurs professeurs ou précepteurs, au point qu'il est dit de lui qu'à 40 ans, c'était un homme charismatique, un cadre charismatique, puissant en œuvre et en parole. On imagine le personnage. Peut-être était-il sorti premier de la promotion. Et il avait devant lui tout l'avenir de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a choisi ? D'être maltraité avec le peuple d'Israël, ses frères. Il se dit, mais il a tout faux. Il a tout faux. Il n'a rien compris. Quand, avec mon épouse, nous sommes partis de Valence, dans la Drôme, en Ariège, alors il y a des voisins qui nous ont demandé ce qu'on venait faire ici. En Ariège, alors on a expliqué, on était à Valence, dans la Drôme, et puis on est venu pour servir le Seigneur, dans l'Ariège. Et c'était un cadre de l'URSSAF d'ailleurs, un voisin. Il dit, mais vous avez tout faux, monsieur. Pourquoi j'ai tout faux? C'est pas une promotion de venir dans l'Ariège. Vous avez tout faux, il fallait choisir une autre ville. Et c'est vrai que dans un film, c'est dit, je vous mute en Ariège, c'est pas une promotion. Moïse a choisi quelque chose qui n'appartient absolument pas au raisonnement humain. Il a choisi d'être avec ses frères, ses sœurs, ses amis, sa famille, de subir l'opprobre et la honte. Pourquoi ? Parce qu'il avait les yeux fixés sur le 30 du mois. La rémunération, dans le texte biblique, c'est la récompense, la rémunération. Et comme il a vu que le salaire, la rémunération promise par le Seigneur, valait la peine de subir quelques petites difficultés, il a choisi l'opprobre avec son peuple parce qu'il avait les yeux fixés sur la récompense. Sur quoi nos yeux sont-ils fixés ? Sur les promesses de Dieu ou sur notre confort immédiat ? À nous de nous poser la bonne question. Et même si nous avons eu ou si nous avons la bonne vision des choses, cette vision peut s'altérer parfois. Et on a vu des frères, des sœurs, même des serviteurs de Dieu se décourager, se lasser, baisser les bras, parce que la vision n'a pas été bien entretenue. On a l'exemple d'un sacrificateur dans l'Ancien Testament nommé Élie, qui avait les yeux troubles, il était assis dans son coin, et il nous est dit qu'en ce temps-là, les visions étaient rares, et la parole de Dieu prophétique était rare aussi. Et lui, il était couché à sa place, est-il dit. Alors que Samuel était couché dans le temple, lui, Élie, il était couché à sa place. Il s'est même trompé quand une dame est venue prier au temple, dans le lieu de culte. Il a cru qu'elle avait consommé trop de pommerolles. Et il lui a dit, va cuver ton vin ailleurs. Il n'a pas bien vu les choses. La vision du salut, la vision de spirituel qui doit être dans notre cœur peut s'altérer. Un jour, nous avons eu un jeune frère stagiaire qui est venu travailler avec moi en Ariège, et quand il est arrivé dans cette magnifique région, il a été subjugué. Waouh, c'est super beau, hein, c'est génial. Oui, c'est très beau. Hein. Et puis, un an après, on discutait ensemble, hein, il m'a dit, je ne vois plus les montagnes. Qu'est-ce que tu vois alors ? Je vois mes soucis. Je vois mes soucis. On peut être dans de très très beaux endroits, avoir des vues panoramiques magnifiques, et au bout de quelques temps, ne voir que ses problèmes et que ses soucis. C'est vrai, ça peut être vrai aussi spirituellement. La vision que Dieu nous a donnée initialement peut s'altérer avec le temps. Parce que Dieu semble tarder dans l'accomplissement de ses promesses. Et le temps est une épreuve. Ça arrive parfois. Dieu ne répond pas tous les jours ou tout le lendemain de notre prière. Parfois, il nous laisse attendre un petit peu. Les épreuves, parfois à répétition, ça finit par nous prendre de l'énergie. Et parfois, nous désespérer un peu, les déceptions. Mais il peut y avoir aussi l'autosatisfaction parce que Dieu nous a bénis. Voilà. En fait, tout n'est que grâce. Mais on peut y voir peut-être quelque chose qui vient de nous. Quand même, oui. Dieu me devait bien ça quand même. L'égoïsme. La religiosité peut s'installer, la routine, l'orgueil, ça c'est le pire de tout. Et la vision devient plus ou moins trouble. On me dirait, non, on est à l'abri de tout ça. C'est pas possible que ça nous arrive, on aime trop le Seigneur. Pourtant, quand je lis les 7 lettres dans l'Apocalypse adressées aux 7 églises, dans une lettre en particulier, celle qui est adressée à l'église de la ville de Laodicée, il est dit, tu ne vois plus rien. Tu ne vois pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Et pourtant, tu te crois arrivé, tu te crois riche, tu te crois béni, et tu as énormément besoin de moi. D'ailleurs, il y a des allusions à la géographie, pour ceux qui savent. Hein. Puisses-tu être froid ou bouillant ? C'est les allusions aux sources froides et chaudes de la région. Et il fait allusion aussi aux vêtements, puisqu'il y avait une industrie textile à la Odyssée. Il fait allusion aussi à l'or, parce que le système bancaire de la Odyssée était le meilleur des systèmes bancaires de l'époque. Donc il y a des clins d'œil à la région. Mais le vrai problème, c'est que l'Église s'est attiédie. Alors, à la Odyssée, les approvisionnements en eau se faisaient par aqueduc, sur un long kilométrage, qui fait que quand l'eau arrivait, j'allais dire au robinet, elle était tiède et nauséeuse. Et le Seigneur fait une comparaison entre le témoignage de l'Église et l'eau tiède qui arrive dans les maisons. Une eau nauséeuse, c'est terrible. Quand on a perdu la vision spirituelle et que notre témoignage donne plutôt envie de vomir que de venir à Dieu. Comme quoi, ça peut arriver. Cette lettre fait partie donc d'un ensemble de sept lettres que l'on considère comme une sorte d'alliance, de traité entre Jésus et son Église. Et c'est donc une exigence de Dieu d'avoir une saine vision des choses, une saine connaissance spirituelle. C'était la préoccupation de Paul aussi, avoir une vision claire. Il écrit aux Éphésiens, chapitre 1, versets 18 à 20, « Je prie Dieu pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez. » Et le verbe a le sens de voir. « Je sais parce que je vois. » Non pas « je sais parce que j'ai appris », mais « je sais parce que je vois. » Afin que vous sachiez ou que vous voyiez donc, l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de l'héritage et l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. C'est ce qui nous a éblouis quand on a découvert Jésus-Christ. Mais 15 ans après, parfois, et après quelques épreuves, on est moins ébloui. Et c'est pourquoi Paul dit « Je prie pour vous, pour que Dieu illumine encore les yeux de votre cœur. » Et je suis assez surpris, admiratif, par l'exemple que Paul nous a laissé lorsqu'il écrit à Timothée sa dernière lettre, la deuxième à Timothée. Il est là dans le fond d'un cachot à Rome. Les pieds sont enchaînés. Je pense que la nourriture ne doit pas être excellente. Le matelas ne doit pas être terrible. Et l'ambiance du cachot ne devait pas être exceptionnelle. Et il écrit à Timothée, « Le moment de mon départ approche. » On sait ce que ça veut dire. « Je vais mourir bientôt. » Et la phrase est si forte que le verbe qui est traduit par « approcher » signifie « être présent ». On pourrait rendre la pensée de cette façon-là, « La mort est dans le cachot. » Je vais bientôt finir martyr. Eh bien, quand on est dans ces circonstances-là et qu'on écrit à son ami, je ne suis pas sûr qu'on écrive ce que Paul a écrit à Timothée. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia ! Quand on sait qu'on va nous couper la tête dans quelques jours. Certains auraient écrit, « Oh, tu sais, le quotidien n'est pas facile. Je suis l'objet de la honte partout. » Ça, il le dit quand même, passage. « Mais la nourriture est infecte. Les chaînes sont lourdes. La paillasse est pleine d'acariens. Les souris sont pas loin, etc. » Voilà l'ambiance, Timothée. Je suis complètement déprimé, anéanti. Et pourtant, j'ai servi le Seigneur avec tant de zèle, tant de ferveur. Voilà comment ça finit. C'est pas ça qu'il écrit. J'allais dire, il meurt au champ d'honneur, droit dans ses bottes, en criant un Alléluia. Désormais, la couronne de justice m'est réservée alors qu'il est dans la pire des situations. Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui motive cette attitude ? C'est la vision claire, la vision spirituelle claire que Paul a dans son cœur et c'est celle sur laquelle il veillait constamment. Que faut-il voir ? Tout d'abord, notre faiblesse, notre fragilité et notre besoin de la grâce de Dieu. Gare à celui qui pourrait penser que maintenant il peut marcher tout seul, qu'il peut faire tout seul. Tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous a accordé, tout ce qu'il a déversé dans notre vie, n'est que le résultat de sa grâce et de sa pure bonté. Nous pourrions jeûner 40 jours, et Dieu pourrait ne rien nous donner. il ne nous doit rien. Mais nous, nous lui devons tout. Lui ne nous doit rien. C'est lui qui nous a fait grâce en nous attirant à lui, en nous accueillant comme des fils et des filles, en nous faisant grâce pour toutes nos erreurs et nos passés, notre passé douloureux et nos offenses. Il nous a donné tout son amour. Non, non, il ne nous doit rien. Tout ce qu'il donne, c'est par grâce. Uniquement par grâce. L'apôtre Paul a bien cheminé, lui aussi. Dans une de ses premières lettres, il écrit qu'il est le dernier des apôtres. Plus tard, il écrit à une église, « Je suis le dernier des saints. » Il est descendu d'une marche. Et puis, quand il écrit à la fin de sa vie à Timothée, il dit « Je suis le premier des pécheurs. » Et il descend plus bas. Parfois, on entend certains témoignages, ça va plutôt dans l'autre sens. Plus ils marchent avec Dieu, plus ils sont forts, bons, extraordinaires. L'apôtre Paul a cheminé dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il a vu au fil du temps de sa marche avec Dieu que sans Dieu, il ne pouvait rien faire, absolument rien, et que tout le résultat de son service, de son engagement et de son ministère dépendait de la grâce de Dieu uniquement. Que Dieu fasse que nous gardions cette humilité-là jusqu'à la fin de nos jours, même si Dieu nous bénit beaucoup. Dieu fait grâce aux humbles. Et aux autres, qu'est-ce qu'il fait? Il leur résiste. Réfléchissez bien au vocabulaire. Aux orgueilleux, il leur résiste. Et c'est terrible quand Dieu résiste à un orgueilleux, parce que l'orgueilleux pense que c'est lui qui a raison et que tous les autres ont tort. Qu'est-ce que nous devons voir? C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure en passant, et j'y reviens sur Éphésiens 1, 18, 20. L'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Aucune philosophie au monde ne peut produire une telle espérance. Aucun système politique ne peut aboutir à une telle espérance. L'espérance que Dieu donne est incomparable. C'est Solzhenitsyn qui écrit quelque part dans un livre, dans le pavillon des cancéreux, en regardant l'attitude des gens qui étaient en fin de vie. Pourtant, il y avait là des ingénieurs, il y avait là des gens qui avaient eu de belles situations. Et il disait, mais pour eux maintenant, la rémunération ne compte plus. Les gloires de la terre ne comptent plus. C'est la lutte contre la mort. Mais cette mort est en train d'arriver d'une manière inexorable. Et il conclut, il est évident que ces gens ont oublié quelqu'un. Mais quand on a Dieu dans son cœur, Dieu dans sa vie, on a une autre vision de l'existence et on sait que nous sommes que de passage sur la terre et que Dieu a en réserve pour nous bien plus qu'un strapontin. La gloire éternelle. Je dis un strapontin parce qu'une fois, une dame a dit, c'était au frère Berton, il témoignait, « Oh, vous savez, monsieur, je ne suis pas très exigeante. Un strapontin me suffira. » Je ne sais pas si vous avez voyagé sur des strapontins, mais bon, passer une éternité sur un strapontin, ce n'est pas terrible. Non, Dieu a pour nous bien plus qu'un strapontin, l'espérance de la gloire. Et puis il est dit l'infinie grandeur de sa puissance. C'est cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Ça nous paraît un peu lointain tout ça, parce que c'est des textes, on est habitué à les lire. Mais quand vous êtes en Inde, et que à la fin de la réunion, les frères, les sœurs viennent, qu'on prie pour eux. Et je me souviens de cette expérience, il y a un monsieur assez âgé qui arrive, et je m'apprête à prier pour lui. Et le frère Solomon, c'est le responsable de la mission indienne, Digam, me dit dans le coloré, « Ce frère, Dieu l'a ressuscité. » Ah, bon. Mais c'est la première fois que je prie pour quelqu'un qui est ressuscité. Et puis derrière, il y a une dame qui arrive. Elle aussi, je me dis. Ah bon? D'accord. Et il y en a beaucoup comme ça? Oh, ils sont nombreux dans la région. ne sais plus combien, il m'a donné un chiffre, mais ils sont nombreux. Et là, d'ailleurs, dans le petit journal de l'AEP, vous verrez qu'il y a l'histoire d'un garçon qui a été électrocuté. Les câbles sont tombés, il a été électrocuté. Son père, qui était hindouiste, a été remué. Il avait entendu parler de Dieu à la radio. Et il a prié le Dieu de la radio. C'est écrit, vous lirez le témoignage, il a prié le Dieu de la radio. Et il a prié longtemps, parce que les hindous prient très longtemps. Ils peuvent prier 3 heures, 4 heures, ça ne pose pas de problème. Et 7 heures après, son fils est revenu à la vie. En Inde, c'est assez commun, une résurrection. Chez nous, moins. Mais c'est dire ce que Dieu peut faire. C'est dire si Dieu peut ramener un être, un cadavre à la vie, c'est quand même qu'il est puissant. Et s'il peut faire ça, il doit pouvoir faire bien d'autres choses. C'est arrivé en France, je connais un cas en France, c'est à Brest. Le frère Pelletier est arrivé tout juste dans l'assemblée de Brest, il y avait 18 personnes. 18 frères et sœurs, et au bout d'un mois, on lui téléphone, on dit voilà, le frère Intel est mort, décédé, il est à la chambre mortuaire de l'hôpital. Si vous pouviez venir, la famille vous attend. Donc il y va, il était jeune pasteur à l'époque, il voit la famille là, qui était en larmes, et puis la dépouille mortelle du frère. Alors il prie. Et je le tiens de sa propre bouche, hein. c'est pas rapporté, c'est lui qui me l'a raconté. Il dit, voilà, j'ai prié. Et je dis, Seigneur, ça fait un mois que je suis là, et déjà tu en as pris un. Il m'a dit, j'ai prié comme ça, et déjà tu en as pris un. Et au moment où il termine cette phrase, le monsieur se relève. Et il dit, je reviens. Il y avait l'infirmière qui était là, qui m'a dit, elle a traversé l'hôpital en criant. Ils avaient le certificat d'inhumation, signé du médecin. Alors il tend au médecin, il dit, on en fait quoi? Il dit, vous le déchirez. Vous le déchirez. Notre Dieu est grand, très grand. Et il n'y a pas de problème insoluble pour le Seigneur. Il n'y a pas de montagne insurmontable pour le Seigneur. Ça n'existe pas. Il est le maître de toutes choses. Il peut faire basculer l'histoire juste parce qu'un roi n'arrive pas à dormir une nuit. Et oui, dans la Bible, c'est arrivé, l'histoire d'Esther. Le roi, il n'arrive pas à dormir. Là, il a une insomnie. Il fait venir les fonctionnaires qui lui lisent les annales de l'Empire, c'était des heures supplémentaires de nuit, ça devait coûter cher. Et tout à coup, il y a Mardoché, il a évité un coup d'État. Mais on ne l'a pas récompensé, celui-là. Et tout s'enchaîne. Juste avec une toute petite histoire comme ça, tout s'enchaîne et tout bascule. Notre Dieu est grand, très grand. Et Paul dit, je prie pour que dans vos cœurs soient illuminés, que vous voyez encore l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Que devons-nous voir encore? La moisson des âmes. Jésus s'est arrêté près du puits de Jacob, près de Sichar, et les disciples sont allés faire un peu de shopping. Pendant qu'ils étaient en train de faire le shopping, Jésus voit arriver une dame. Une samaritaine. Alors déjà, j'en dis qu'entre les juifs et les samaritains, c'est comme entre les toulousains et les ariégeois. Les relations sont pas toujours bonnes. Et Jésus s'adresse à cette femme et lui demande à boire. Ce jour-là, Jésus casse toutes les conventions. Les rabbins avaient déclaré que l'eau de la Samarie était plus impure que le sang des cochons. Donc, il ne fallait pas en boire. En plus, Jésus a utilisé la cruche de cette femme samaritaine. Jean dit qu'il n'y a pas de bonne relation entre les Juifs et les Samaritains. Et littéralement, dans la parenthèse, il faudrait comprendre, je vais vous le donner en français courant, on n'utilise pas la même vaisselle, les mêmes coupes. Et pourtant, Jésus a pris de l'eau de la Samarie, servie par la cruche de la Samaritaine. Et quand les disciples sont arrivés, il leur a parlé de la moisson. Il a dit, levez les yeux et regardez. Et qu'est-ce qu'ils voyaient ? Ils voyaient des champs de blé ou d'autres céréales prêts pour la moisson, qui se préparaient à la moisson. Or, il faut savoir que le blé de Samarie était déclaré impur et invendable à Jérusalem. Tout ce qui venait de Samarie était impur. Et symboliquement, quand Jésus dit à ses disciples, « Regardez les champs qui blanchissent », ce que les disciples voient, c'est finalement une moisson impure. Mais le Seigneur, lui, il voit une autre moisson des âmes qu'il faut sauver. Je vais prendre un exemple contemporain. Nous étions en campagne électorale depuis quelques mois et on nous a beaucoup parlé des migrants. Et on sait que ici ou là, les migrants sont vus sous un certain angle. Pas toujours très avantageux d'ailleurs. Mais il faut savoir que dans ces flots de migrants qui se dirigent pour une bonne part d'entre eux vers l'Europe du Nord, des centaines se convertissent à Jésus-Christ. Et en 2016, en Finlande, ils ont baptisé plusieurs centaines de migrants qui, pendant leur voyage, ont eu les visions de Jésus-Christ. Et ils se sont convertis. Et je connais l'histoire d'un migrant qui a une vision comme ça et qui est arrivé en Allemagne. Et la première chose qu'il a cherchée, c'était une église évangélique. Il voulait se faire baptiser. Il a trouvé une église luthérienne. Il a dit au pasteur qu'il voulait se faire baptiser. Il n'a pas très bien compris ce qu'il voulait. Alors il lui a dit, ben, suivez les études bibliques. Là, vous verrez. Alors il est venu aux études bibliques. Il se mettait dans un coin. Il ne comprenait pas grand-chose. Et le pasteur lui a dit, allez voir madame le maire, les services sociaux vont s'occuper de vous. Et ce garçon a cheminé dans la foi et finalement il a demandé au pasteur de le baptiser. Et donc le pasteur a accepté de le baptiser par immersion. Et ce garçon a invité madame le maire à participer, à assister au baptême. Et elle a été bouleversée, cette dame. Et elle dit ceci. Qu'est-ce que ces gens ont vu dans le christianisme que moi, je n'ai pas vu ? Ouais. On peut voir les populations en leur mettant des étiquettes. On peut voir notre voisin, notre voisine, en lui collant une étiquette où lui, c'est pas demain qu'il va se convertir. D'ailleurs, c'est même pas la peine de lui parler de Jésus au point où il en est. Que Dieu nous garde de coller quelque étiquette que ce soit derrière ce qui nous met mal à l'aise, derrière une façade qui nous incommode, il y a une âme à sauver. Il y a une âme à sauver. Si vous avez l'occasion de lire le témoignage de Yanis Gauthier, vous verrez, c'est quelque chose de phénoménal, extraordinaire. Ce voyou, ce personnage imbuvable qui aujourd'hui a vu sa vie changer complètement, transformée, et qui prêche l'évangile aux autres détenus, c'est l'œuvre de la parole de Dieu, la grâce de Dieu et du Saint-Esprit. Si nous regardons la moisson autour de nous, oui, ce sont que des champs impurs. Mais gardons-nous d'avoir l'attitude des autorités rabbiniques, j'allais dire Jérusalem, cette foule, ces maudits qui ne connaissent pas Dieu. Que Dieu nous garde d'avoir une vision qui pourrait s'altérer avec le temps et nous amener à une sorte de religiosité, d'embourgeoisement, dirais-je, qui ne nous permettrait plus de voir ces âmes belles que Dieu aime et pour lesquelles Christ a donné sa vie à la croix. Que devons-nous voir ? La détresse de la foule, Quand Jésus a vu la foule, il n'a pas fait des signes, c'est moi. Il n'a pas recherché les applaudissements. Il a eu compassion de la foule. Car au-delà des milliers de personnes qui étaient là, il a vu des cœurs en détresse, des âmes souffrantes, des corps malades, infirmes. Et il a pris le temps d'enseigner, de guérir, de nourrir, etc. Seigneur, donne-moi tes yeux pour que je voie comme toi tu vois. Et une autre chose que nous devons voir, c'est le dessein bienveillant de Dieu pour l'humanité, de manière générale, et l'immensité de la grâce de Dieu. Il y a parfois dans la Bible des messages, j'allais dire subliminaux, mais très forts. Et je pense à l'apôtre Pierre qui a dû rectifier sa vision. Il faisait partie certainement de ceux qui pensaient que la grâce et le salut de Dieu n'étaient réservés qu'au peuple juif. Au début, c'est ce qu'on pensait. Les païens, c'est vraiment l'extérieur. Et alors que Pierre était sur la terrasse, à Joppé, et qu'il priait, on est en train de lui préparer le repas, tout à coup il voit une nappe qui descend avec des animaux purs et impurs, et une voix qui dit « tue et mange ». Et là, comme pour nous d'ailleurs, ça se passe comme ça, premier réflexe, les réflexes culturels, éducatifs, tout ce qu'on nous enseignait. Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de manger le crocodile. Ce n'est pas possible de manger ce boa. C'est pas possible de manger cet insecte. C'est impossible, c'est interdit. Et la voix s'est faite insistante. Et Dieu ne lui a rien dit de plus. Comme quoi Dieu, parfois, il n'est pas assez clair. Mais par la suite, Pierre réfléchit, puis quelqu'un frappe à la porte et on demande Pierre. Et c'est quelqu'un qui est envoyé par un capitaine ou un centenier romain. Donc, l'occupant, qui envoie donc quelqu'un pour faire venir Pierre. Et Pierre fait une relation entre la vision et la réalité qu'il est en train de vivre, l'invitation qu'il reçoit. Et il va à Césarée, chez Corneille. Je répète, c'est un soldat de l'occupation romaine. Et Césarée, c'est la pire des villes. C'est une ville reconstruite par le roi Hérode, qui l'a appelée Césarée pour se faire bien voir de l'empereur romain. Et même dans cette ville, on a encouragé le culte de l'empereur romain. On y a fait défiler des effigies, on a construit des statues en l'honneur de l'empereur romain. D'ailleurs, quand Pierre est revenu, il a juste expliqué. C'était inconcevable dans la culture juive que Dieu puisse accorder la grâce à l'occupant et dans cette ville de Césarée. Et pourtant, Dieu l'a fait. Même, ça a été surprenant. Pierre était en train de prêcher quand tout à coup, le Saint-Esprit est descendu sur ces gens sans prévenir. Pierre a été surpris. Mais il a reconnu que c'était l'Esprit de Dieu qui était là. Et ce jour-là, Dieu a cassé aussi des conventions qui étaient dans la tête de Pierre et par la suite dans la tête des autres apôtres. Hier, quand j'ai fait l'historique, j'ai dit que le pentecôtisme était venu en France par le nord-ouest et par le nord-est. Eh bien, les Français ont privilégié le nord-ouest parce que ce qui venait de l'Allemagne ne pouvait pas être bon. Voyez, comprenez ce que Pierre pouvait ressentir et les autres. Comment Dieu peut-il bénir un capitaine romain, l'occupant, dans une ville aussi pourrie que Césarée, religieusement? Comment Dieu peut-il faire ça? La grâce de Dieu n'a ni frontières, ni limites, ni acception de personne. Que Dieu fasse Que notre cœur soit très grand, rempli de l'amour de Dieu, et que nous puissions aimer même ceux qui ne nous paraissent pas aimables. Et que nous puissions même oser prier pour eux et dire « Seigneur, Jésus est mort pour tel et tel et tel. » Je ne me sens pas très porté à l'aimer, naturellement. Mais je crois qu'il y a une belle âme pour laquelle tu as donné ta vie à Golgotha. Oui, ça pourrait être notre prière. « Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Renouvelle ma vision des choses. » afin que je ne tombe pas dans le travers de l'église de Laodicée, qui avec le temps avait perdu la bonne vision. Elle se croyait parvenue, elle se croyait riche, elle se croyait arrivée, elle se croyait n'avoir plus besoin de rien, elle était comblée. Certes, elle l'était probablement, mais la vision s'était altérée, gâchée. Seigneur, renouvelle mes yeux, la vision de mon cœur, et donne-moi tes yeux, j'allais dire. Donne-nous tes yeux, Seigneur, pour que nous voyions comme toi tu vois. Seigneur notre Dieu, notre Père,